Résonance sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue. Résonance part sur les routes de la région et vous donne rendez-vous pour le suivre sur les routes de la région Rhône-Alpes et d'ailleurs pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, deuxième émission de notre enquête, comment le musée peut-il, dans sa démarche, être un espace de dialogue, d'invention et de mobilisation ? On peut constater qu'un effort très important a été accompli par l'ensemble des lieux de culture, de pratiques artistiques et notamment les musées pour rendre accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap, aux personnes fragilisées, marginalisées, incarcérées, ces lieux de rencontre avec notre patrimoine culturel et artistique, tant sur le plan du cadre bâti que de l'accès aux œuvres, aux collections, aux contenus. Nous saluons cette dynamique et souhaitons que les musées poursuivent cette ferme envie de devenir un lieu où l'on vient, où l'on revient, un lieu de vie. Pour cette enquête, il nous semble important de déplacer le regard, d'introduire d'autres angles de vue pour susciter une autre lecture de ce processus. Le handicap bouscule, il sert de révélateur. Il met en branle, en mouvement la pensée et les systèmes d'organisation. Il entraîne de fait des évolutions qui deviennent des actualisations et l'actualisation est création. Nous souhaiterions avoir une lecture qui s'intéresse plutôt à ce qui fait que la question de l'accueil de ces publics met en mouvement, conduit à l'invention, à la création, au changement permanent, ouvre d'autres perspectives et devient un effet moteur pour inventer ensemble. Chaque pays en Europe, à travers ses politiques publiques, a sa manière de travailler et de mettre en œuvre l'accès de tous aux arts et à la culture. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Résonance a choisi de venir à la rencontre de nos amis suisses et de s'installer au musée Ariana, musée de la céramique et du verre, en plein cœur de Genève. Pour cette deuxième émission de notre enquête « Comment le musée peut-il, dans sa démarche, être un espace de dialogue, d'invention et de mobilisation ?», j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro tout d'abord Isabelle Naef-Galouba, directrice du musée Ariana. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous en tout cas pour votre accueil et de nous avoir permis que cette émission puisse se passer ici.
C'est un grand plaisir.
Merci. J'ai le plaisir aussi également d'accueillir Jeanne Pont, attachée culturelle au service de la promotion culturelle du département de la culture et du sport de la ville de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, peut-être Isabelle Naef-Galouba, c'est important d'évoquer un peu l'histoire de ce magnifique lieu dans lequel nous avons le plaisir de réaliser la présente émission. Lorsqu'on découvre le musée Ariana, on est tout d'abord un peu, même grandement, surpris par la merveilleuse architecture de ce lieu, qui a des allures même de palais un peu majestueux, et qui est dû à un mécène, un homme public, érudit, collectionneur genevois, protecteur des arts et des sciences. Et je veux parler de Gustave Revilliot. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus à la fois sur ce personnage et puis également sur ce lieu?
Alors, Gustave Revillaud, effectivement, était un mécène, grand voyageur, collectionneur émérite et protecteur des arts. Et on peut dire qu'il a fait œuvre de pionnier ici à Genève, tout d'abord parce qu'il a véritablement collectionné de tous les arts, aussi bien peinture, sculpture, céramique, mobilier, argenterie, armes, numismatiques, et il en a fait profiter ses concitoyens. C'était vraiment son premier but, hors celui de se faire plaisir en tant que collectionneur. Oui. Il a ouvert son appartement d'abord aux visiteurs, son appartement personnel, et puis devant l'ampleur de sa collection et son développement, il a décidé de construire ce magnifique musée entre 1877 et 1884 et de l'ouvrir immédiatement au public. Ce bâtiment a donc toujours été un
toujours
musée.
Toujours eu cette vocation d'être ouvert vers les autres et de faire rencontrer un patrimoine, en tout cas déjà que lui avait récolté, qui avait reçu sa sensibilité en tout cas et son intérêt.
Tout à fait, et ce qu'il souhaitait, c'était justement sensibiliser tout un chacun à ce patrimoine, à la notion d'art aussi bien ancien que contemporain, puisque depuis le début et depuis Gustave Revillaud, nous collectionnons l'art de notre temps, si on peut dire ainsi.
Et puis je crois qu'il y avait une partie, on vient de d'évoquer déjà des œuvres d'art en général, mais il y avait aussi toute une partie, alors il était très très large, il s'intéressait aussi à la littérature aussi, il y avait toute une partie importante, une bibliothèque aussi également importante.
Oui, il s'intéressait vraiment à tout, et en fait il s'est trouvé que c'était le premier musée encyclopédique de Genève, que M. Revillaud a eu l'amabilité de léguer à la ville de Genève et donc à la collectivité publique pour assurer la pérennité en fait de son œuvre. Et c'est dans les années 30, à la suite en fait de la création du musée d'art et d'histoire de Genève qui a été fondé en 1910, que le musée a été dédié à la céramique et que les collections céramiques de Revillaud, mais aussi d'autres collections, ont pu rejoindre notre musée, ce qui en fait aujourd'hui l'institution, le musée suisse de la céramique et du verre, mais c'est également une institution de grande envergure pour le domaine des arts du feu, en Europe en tout cas.
Voilà, ce qui fait toute cette spécificité et nous, vraiment un grand bonheur de pouvoir être ici. En même temps, pour prendre un peu, je dirais, la suite de la philosophie de cet homme, de ce mécène, puisque c'est aussi toutes ces questions que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, l'accessibilité aux œuvres, à la culture, comment les lieux, en tout cas, tels que les musées en général, sont aussi des lieux majeurs pour permettre finalement ce partage, là aussi, d'une culture qui nous était passée, mais aussi la culture présente et la créativité. Et puis comment chacun peut trouver sa place. Effectivement, c'est un lieu qui renferme et qui accueille un patrimoine musical, mais comment tout le musical, mais aussi muséal et de tous ordres. On parlait de littérature également, mais également comment tout le monde peut aussi avoir peut participer à cette chose, peut vivre aussi avec si, peut le réinscrire dans son quotidien. Et c'est vrai que la céramique, on évoquait en aparté avant que cette émission ne démarre, effectivement nos tasses, café. Enfin voilà, quand on parle céramique, quand on parle toutes ces c'est aussi d'objets du quotidien finalement qui est ici et qui peut-être peut faire encore une autre liaison, un autre impact vis-à-vis d'un plus large public.
Bien sûr, la céramique est vraiment un matériau formidable parce que d'abord c'est un domaine qui appartient à l'ancestral qui existe depuis quasiment toujours après la peinture à doigts des cavernes, si j'ose dire. Et puis la céramique est effectivement multifonctionnelle. Ici nous sommes dans un musée d'art et d'histoire au pluriel, où nous aimons raconter des histoires avant tout, mais aussi bien sur la fonction de nos objets que sur, bien sûr, tout le domaine artistique et toutes les techniques qui ont prévalu à leur création.
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana de Genève. Nous venons d'entendre Zitrafer pour percussion, une œuvre de 1992 de Fritz Hauser, compositeur suisse originaire de Bâle. Et cette œuvre était interprétée par les tambours de Bâle et aussi avec la complicité du percussionniste et compositeur Fritz Hauser. Voilà, on aura l'occasion d'ailleurs tout au long de ces trois émissions d'être accompagné essentiellement par la musique de compositeurs suisses, et c'était aussi une manière voilà, côté français en tout cas, d'avoir un petit peu plus ce rapport aussi avec la création contemporaine musicale ici en Suisse. Alors nous voulons dans le cadre de cette émission interroger ici le rôle du musée, son évolution. Comment doit être vécue l'expérience muséale? Celle-ci doit-elle être l'occasion d'acquérir des informations, de vivre une expérience, de ressentir des émotions, de s'interroger, de s'étonner, d'écouter, de toucher, d'imaginer, de rêver, de s'amuser. Pourquoi pas tout cela en même temps? C'est peut-être aussi se demander qu'est-ce que l'on vient chercher justement dans ces établissements pluriels et quel lien nous souhaitons entretenir avec le musée, avec la culture dans son sens le plus large du terme, et donc finalement la culture pour quoi faire. Alors peut-être on peut peut-être essayer de resituer, même si tout ça englobe beaucoup de choses, Jeanne Pont, mais peut-être voilà quelle relation on essaye aujourd'hui d'avoir avec le musée et comment le musée, lui aussi, vis-à-vis de ses missions et de son large public, s'inscrit aussi vis-à-vis de toute cette communauté très large et très diverse finalement.
Alors, le musée d'abord, c'est un espace souvent public. En tout cas, à Genève, le département de la culture et du sport pilote un certain nombre de musées, 14 musées exactement, oui. 14 lieux. Donc, ces espaces qui vivent grâce à l'argent public sont des lieux qui effectivement doivent encourager la rencontre, la rencontre avec des public, des gens, je dirais, oui, des citoyens, des payeurs d'impôts, ou non d'ailleurs, quand ils sont étrangers de passage. Mais c'est leur première vocation, et je pense qu'aujourd'hui, on a compris que le musée n'est pas juste un espace de collection, un espace d'études qui est évidemment une mission fondamentale d'un musée, parce que sans collection, le musée n'existe pas, mais que en parallèle à cette mission d'études et de connaissances et de constitution de collection, il y a ce travail à faire et à mener pour rencontrer les publics. Donc, de deux manières, au fond, cette mission s'exprime depuis un certain nombre d'années à Genève et ailleurs dans le monde d'ailleurs. D'une part par un mouvement qui remonte de la base, du terrain. Et là je fais juste un petit aparté, nous sommes en Suisse et le bottom up est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire les envies et les actions qui remontent du terrain et qui vont vers les espaces décisionnels.
Voilà, ce qui est un espace, effectivement une relation différente que l'on ne trouve pas, puisque là en même temps ça nous permet de comparer qu'est-ce qui se passe en France, comment les choses se passent aussi en Suisse. Et ça, c'est une chose très spécifique à ici et que nous ne retrouvons pas beaucoup chez nous, en tout cas.
C'est le côté démocratie directe qui fait partie de la mentalité du fonctionnement suisse.
Et qui me semble importante.
Donc voilà, il y a ce mouvement de la base qui s'est matérialisé par tout le travail de médiation culturelle, ces médiateurs culturels qui sont des gens de terrain et qui sont là pour penser public et penser diversité des publics. Mais évidemment, ce travail n'est pas possible et ne peut pas se développer, se matérialiser si il n'y a pas le mouvement, l'autre mouvement, qui est le mouvement qui part du haut, qui est le mouvement qui part au fond du politique ou en tout cas des directions d'institutions, des directions de la culture qui, eux, sont en phase directe avec le politique. Et donc, il y a eu ici à Genève une impulsion assez importante du politique dans les années, au début des années, depuis les années 80, on va dire, mais qui s'est vraiment concrétisé à partir des années 2000-2010, qui était cette impulsion de ce qu'on a appelé « culture pour tous ». Donc avec des questions soulevées sur qui est le public et pourquoi et comment se fait-il que certaines catégories de public ne soient jamais représentées.
C'est ça. Oui, ça correspond à ce qu'on dit aussi un peu en France, la nouvelle muséologie hein, des années 80, où effectivement la prise en compte d'un public et de comment travailler une certaine médiation justement pour que ces publics puissent petit à petit se dire c'est aussi un lieu pour nous. Et aussi on sait que, alors on évoquait justement le côté politique, les musées c'est aussi l'expression aussi d'une volonté très importante de partager des savoirs, d'éveiller des consciences. Là, j'emploie des grands termes, mais en même temps, d'instruction publique, ça c'était dans les fonctions politiques aussi en même temps. Et puis c'est vrai que dans les années 80, on voit émerger, en plus de cette raison-là, cette préoccupation un peu des publics et donc du coup des modifications finalement un peu de comment mettre en contact, de comment faire pour aller à la rencontre un peu de ces publics. Et puis à partir de là, bien, des tas de choses se sont faites, c'est-à-dire on nous a rendu des textes plus lisibles, on nous a facilité finalement de multiples manières, à la fois sur des aspects technologiques et autres, l'accessibilité finalement aux choses. Et comment vous percevez toute cette évolution ? Parce qu'elle est vaste sur 20 ans pratiquement par rapport à ça.
Cette évolution, pour moi, je la résume très souvent en disant qu'il y a une prise de conscience des lieux culturels, les musées en particulier. Les musées ont été pionniers en Suisse, ont vraiment été pionniers dans cette prise de conscience des deux trésors. Mmh. Il y a le trésor collection, c'est un véritable trésor qu'il s'agit de travailler, de faire connaître, etc. Et puis il y a le trésor public, les gens. Et surtout dans un musée qui vit avec des fonds publics. Donc ce travail sur ce trésor-là s'est fait progressivement avec de très très petits moyens au départ et qui sont des moyens qui progressivement, avec la prise de conscience qui se traduit mais, finalement dans l'organigramme d'un musée, les organigrammes de musées ont énormément bougé ces 20 dernières années et l'essentiel du mouvement a été pour positionner ce terme déjà de public, les gens, le public, mais je pense qu'Isabelle pourrait parler beaucoup mieux que moi de ces aspects-là.
Votre regard là sur l'aspect que nous soulevons et cette évolution depuis ces années 80, l'évolution de la muséologie finalement et de cet accompagnement, ce trésor dont parle Jeanne Pont, que j'aime bien en tout cas, on l'aborde pas autant comme sous cette forme-là, je dirais, en France, trésor des collections, trésor de l'art qui est là, mais aussi s'il n'y a pas ce trésor du public à qui on s'adresse, il y a quelque chose qui manque. Et quel regard portez-vous, vous aussi, en tant que directrice maintenant de ce musée et d'avoir vécu aussi toute cette période ?
Oui, c'est vrai que ça a été une période de grands changements ces 20 dernières années. Alors, on sait du point de vue historique, effectivement, les musées étaient autrefois plus des temples, du sacré, consacrés à l'objet, à une élite.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, fort heureusement.
Quoique, quand on parlait du lieu d'origine, on avait déjà un embryon fort avec ce mécène, Revilio, qui était là, qui nous donnait des lignes.
Je le citais absolument comme un pionnier dans ce sens-là aussi. Et cette évolution, comme disait Jeanne Pont, elle s'est faite avec la professionnalisation des métiers du musée et leur spécialisation, où on a vu, avant, le conservateur faisait tout, hein, si on voulait, il conservait, c'est-à-dire il gardiennait, il surveillait les objets pratiquement, il les étudiait, il les choyait. Aujourd'hui, voilà, il les étudie, il les montre, mais c'est toute une batterie de professions autour, telles que les médiateurs culturels qui vont justement encore plus prendre soin de nos publics. Et puis, c'est aussi vraiment une évolution vers des lieux de vie. Pour moi, ce qui est le plus intéressant aujourd'hui dans nos musées, et je dirais vraiment, on en a l'exemple au musée Ariana, parce que c'est ce qu'on souhaite faire, les responsables du musée, tous les jours, c'est vraiment s'ouvrir, alors pas au plus grand nombre dans le sens d'un audimat, qui nous intéresse finalement pas tellement, mais à la plus grande diversité, c'est-à-dire que les personnes viennent découvrir leur patrimoine ou d'autres cultures, des activités qui les intéressent et que par là même, ils s'enrichissent, mais que nous aussi, nous nous enrichissions à travers leur regard et à travers ce que les publics ont à nous dire. Aujourd'hui, les publics veulent participer, veulent s'intéresser, veulent parler de ce qu'ils voient, des activités qu'on fait dans le musée. Et dans ce sens-là, c'est vraiment passionnant.
C'est important ce que vous soulevez, et je voudrais peut-être aussi avoir votre regard à l'une et à l'autre, justement sur, je caricature peut-être aussi un peu, c'est-à-dire que du coup les institutions culturelles et les musées en particulier se trouvent confrontés aussi en même temps à la question de l'art pour l'art, l'art ou l'art pour l'autre, et puis quelquefois aussi tout un aspect. Le divertissement prend de plus en plus de place, des modes aussi d'image, de technique, de communication, qui font que du coup, une limite quelquefois un peu, je ne sais pas si on peut employer ce terme, aussi un peu dérivante aussi également, s'exprime. Et quelquefois, les institutions comme le musée se trouvent pris avec cet ensemble d'échelons de communication, de troubles aussi finalement, même pour un vaste public, de qu'est-ce qu'il y a de l'ordre du divertissement, qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de la culture. Les frontières se transgresse et peut-être amène du trouble aussi. Alors quel regard avez-vous vous aussi sur cette à la fois cette évolution, comme vous venez de le dire l'une et l'autre, du musée, de ses fonctions, de ses modalités, et en même temps cette espèce du divertissement qui devient de plus en plus prégnant et qui a tendance peut-être quelquefois où vous compliquez la vie finalement. Comment faire aussi par rapport à ça pour garder cette éthique que je garderai du trésor public aussi en tant que tel. Jeanne Pont.
Je serais tentée de reprendre une expression française très célèbre, ne pas bronzer idiot, pour dire que divertissement veut dire loisir, et que la société de loisir, c'est pas quelque chose qu'on peut nier.
Bien sûr.
Et que il faut juste la prendre en compte et être suffisamment au clair au sein de l'institution pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Encore une fois, je pense qu'on peut vendre des barbes à papa et faire un lâcher de ballon dans un musée si on sait pourquoi on le fait. Mmh. Si on le fait pour faire, juste pour faire du chiffre, ça n'a pas de sens.
C'est ça.
Mais si on le fait parce qu'on donne du sens à ça, parce qu'aujourd'hui c'est un moment festif, et puis que dans ce moment festif, on sait que dans la culture de la sortie du dimanche, il peut y avoir la barbe à papa et du lâcher de ballon, et qu'on fait ça 5 minutes, 10 minutes, mais que c'est juste un prétexte à faire d'autres choses aussi. Mmh. On n'est pas dans l'un nous l'autre, on est dans l'un et l'autre. Et il faut bien réfléchir, je veux dire, on sait... tous les grands penseurs de l'apprentissage et de l'éducation et tous les grands pédagogues ont tous quand même mis en avant que le jeu, le divertissement, le loisir, la détente faisaient partie des techniques d'apprentissage. Mmh. Et que apprendre, ce n'est pas juste apprendre, comprendre, développer son esprit, s'ouvrir à ce qu'on ne sait pas, passe aussi par le loisir et le divertissement. Mmh. Mais là, c'est une énorme responsabilité des lieux.
Des lieux mêmes.
Des lieux mêmes, de savoir à quel jeu ils jouent. Et c'est une des fonctions principales pour moi d'un service de médiation culturelle. Mmh. De réfléchir au fond et à la forme. C'est-à-dire quels moyens je vais chercher pour atteindre quel objectif.
Quel objectif.
Et après, la diversité, la panoplie des moyens, la boîte à outils,
mise en œuvre,
elle est immense.
Bien sûr.
Mais effectivement, vu de l'extérieur, ça peut paraître quelquefois être juste un goûter au musée. Alors pourquoi faire un goûter? Pourquoi faire un anniversaire? Okay. Peut-être qu'il ne faut pas systématiser les anniversaires au musée, mais si on le fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Et dans certains cas, c'est pertinent. Dans d'autres cas, ça n'a aucune pertinence.
Isabelle Neve-Galouga.
Oui, tout à fait. Je pense que ce que dit Jeanne Pont est absolument primordial. Il faut savoir ce qu'on recherche et ce qu'on fait. Et surtout, ne pas oublier de fournir aux visiteurs des contenus de qualité, mais on peut le faire et volontiers en se divertissant. L'an passé, pour exemple, on a monté une grande exposition Terre d'Islam autour de notre collection de céramique islamique du 9e au 21e siècle. C'était l'occasion pour nous vraiment de faire un travail scientifique très important, de publier un pan entier de notre collection. Mais tout autour de cette exposition, on a vraiment souhaité la relier à l'actualité. Vous disiez tout à l'heure actualisation et création, et c'était tout à fait
le propos.
L'esprit dans lequel on a voulu aussi faire tout un panel d'activités de médiation. On a donc imaginé des colloques, des conférences, des projections de films, des tables rondes, mais aussi des repas conviviaux, des spectacles de danse. On a fait une nuit du conte, mais tout cela était toujours relié à la collection et au message scientifique ou culturel ou artistique qu'on souhaitait donner. C'est-à-dire que tout en s'amusant et en découvrant aussi d'autres arts, tout en élargissant le propos, on revenait toujours au musée Ariana, à la collection, à ce qui s'y montrait. Et c'était ça, c'est notre mission, c'est notre métier de base. Et donc, pas de divertissement sans message pertinent, en tout cas de notre part.
En tout cas, je crois que c'est essentiel. Et du coup, je voulais peut-être mettre aussi un confrère en contrepoint, justement, qui lui aussi évoquait sa réflexion par rapport à qu'est-ce que peut-être le musée. Il s'agit de Christian Bernard, qui est le directeur du MANCO, aussi musée d'art moderne et contemporain de Genève. Et je vais reprendre un peu ses propos et il nous dit ceci à propos de sa vision de qu'est-ce que peut être le musée. C'est donc un musée de proximité, le musée citoyen que nous voulions bâtir. Qu'est-ce qu'un musée ? C'est la maison des objets dont nous pensons qu'il mérite de nous survivre et qu'il nous revient de sauvegarder et de transmettre. Un musée d'art contemporain, c'est aussi un instrument de production artistique au service des artistes, un outil pédagogique au service de la jeunesse, une offre cohérente d'enrichissement culturel adressé à chacun. C'est, enfin, un espace public qui se doit d'être de plein pied avec la cité, à l'écart du marché et des dogmatismes idéologiques, un espace accueillant pour tous ceux qui ne craignent pas de renoncer aux préjugés et veulent faire l'expérience des formes et des idées qu'inventent les artistes aujourd'hui, formes et idées qui souvent anticipent sur l'évolution de notre vie ou l'éclair d'un jour nouveau, agrandissant le monde et notre façon de le sentir et de le comprendre. Voilà, c'est extrait d'un article qui est paru dans un article d'ailleurs éditorial dans Art Passion, une des revues suisses d'art et de culture de mars 2014. Comment vous réagissez à ces propos, en tout cas qui viennent déjà, je dirais, en contrepoint, mais aussi dans le sens que vous évoquiez tout à l'heure, Isabelle Naïf-Gaouluba?
Je pense que c'est une fort belle citation et que Christian Bernard résume là de manière brillante tout ce que peut être un musée dans ses grandes orientations. C'est tout à fait ça. Et je veux dire, un musée sert effectivement à plusieurs choses, peut être attaqué sous plusieurs angles de vue. Et il cite bien là et les collections et les artistes, bien sûr, la production et les publics. Et comme on dit, il n'y a pas de futur sans passé. Donc ce qu'on fait aussi aujourd'hui dans un musée, c'est bien sûr de conserver un patrimoine pour le transmettre aux générations futures. Et pour ça, on a besoin, bien sûr, de notre regard d'historien de l'art, de critique d'art, de médiateur culturel, etc. Mais on a aussi besoin de plus en plus de crowdsourcing, c'est-à-dire d'avoir le regard de l'autre, parce qu'il va enrichir nos connaissances ou même nos émotions, tout simplement. Et ce qu'on peut dire encore autour de ces objets et ce qu'on peut dire sur la relation de l'autre avec l'objet. Ou, enfin, on voit aussi que très souvent, ces espaces de vie, les musées, sont des endroits où on ne vient pas seul, ce qui n'était peut-être pas le cas autrefois, mais aujourd'hui on vient et on aime discuter de ce qu'on voit, partager. Pour moi, ce sont vraiment des lieux de partage et de rencontre, des lieux aussi d'intégration sociale où les gens se retrouvent et par le biais d'un art, alors qui peut être parfois polémique, bien sûr, comme le cas de l'art contemporain, mais néanmoins fait causer, fait discuter, fait débattre et parler de l'actualité ou simplement de choses qu'on aime, un lieu de contemplation pour passer un bon moment.
Jeanne Ponce, c'est une dynamique, quand on entend les propos de Christian Bernard, et on l'entendait dans vos propos précédemment, c'est une dynamique sur laquelle la ville de Genève travaille de manière très, très précise et forte et accompagne, je dirais, ses différents responsables d'établissement.
C'est en tout cas un axe de politique culturelle qui s'appelle Accès pour tous, qui existe, qui a changé de nom à différentes reprises, mais qui aujourd'hui demeure, et demeure d'autant plus que la ville de Genève, au sens plus large, au-delà du juste simple département de la culture, a par exemple travaillé à pouvoir être reconnue dans le processus d'Aalborg, donc ville durable, développement durable. Et dans ces points précis du projet Aalborg et ville de culture durable, il y a le positionnement de l'accessibilité à la culture pour tous et en particulier pour les personnes en situation de handicap.
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana à Genève. Et nous venons d'entendre une œuvre d'un autre compositeur suisse, Nicolas Bollens. O Clara il Luziente, une œuvre de 2007. Nicolas Bollens est natif de Genève également. Et cette œuvre est interprétée par Sarah Gamaro, soprano, et l'ensemble Fontana Mix, placé sous la direction de Francisco La Licata. Fontana Mix est un ensemble aussi important. Alors là, on est, puisqu'il y a une partie italienne aussi en Suisse, c'est un ensemble très important aussi en Italie, de musique contemporaine. Et là, on trouve une très belle association, en tout cas, entre la musique de Nicolas Bollens et puis bien sûr la voix de Sarah Gamaro. Alors, on commençait, Jeanne Pont, d'évoquer justement l'accès à tous ces publics, le trésor aussi d'écouter aussi la demande de comment on peut être à l'écoute d'un public. Peut-être pouvons-nous maintenant se dire, voilà, la politique qui a commencé très fortement depuis quelques années à se mettre en place pour essayer d'accueillir encore peut-être des publics qui habituellement ont des accès très disparates aussi vis-à-vis de la culture. Je pense à toutes ces personnes en situation de handicap, à des personnes marginalisées. On évoquera dans une de nos émissions enregistrées aujourd'hui ici les personnes aussi incarcérées. Vous pouvez nous développer un petit peu peut-être l'enjeu aujourd'hui de l'accueil de ces publics et la place justement dans cette écoute de l'autre finalement. On ne fait pas, je dirais, de l'opportunisme, de se dire tiens oui, ça y est, maintenant on fait un focus sur cette partie de public, mais c'est une réelle démarche dans ce que l'on vient de dire précédemment.
Alors oui, là, il faut de nouveau revenir à ce double mouvement. D'une part, il y a cette ville de Genève qui s'engage, qui signe les engagements d'Aalborg avec cette priorité 12A, qui est l'accessibilité à la culture pour les personnes en situation de handicap. Handicap pris au sens très très large, du handicap mobilité réduite, handicap sensoriel, handicap mental, mais aussi tout ce qui peut être de l'ordre de l'entrave momentanée ou durable. Je suis en prison, je ne peux pas me déplacer. Donc les publics issus aussi du champ social. Voilà. Donc il y a cette volonté politique qui part du haut, avec un premier travail qui est fait en 2007, de faire déjà l'inventaire de l'accessibilité des bâtiments. La ville de Genève pilote plus de 30 bâtiments culturels.
Oui, ce qui est énorme.
Opéra, théâtre, musée, bibliothèque, etc. Et un énorme travail a été fait pour qui est notre pavé de base, qui est un énorme document, qui est passé au travers de tous les bâtiments pour voir quels étaient les problèmes cadre architectural, mais aussi les problèmes de son, problèmes d'éclairage, enfin tout ce qui pouvait renvoyer à différentes typologies de handicap. Ce travail de base, au fond, a amené à prendre conscience déjà de l'ampleur du travail. Nous sommes pour la plupart du temps dans des bâtiments patrimoniaux. Et on ne dit pas comme ça à un responsable du patrimoine, vous voyez votre jolie porte du 16e siècle, il faudrait peut-être l'élargir de 40 cm pour que
un fauteuil puisse passer.
Un fauteuil électrique, un moteur puisse passer. Voilà, donc il y a eu cette première prise de conscience qui a amené au vote d'un crédit de 3 millions de francs suisses, qui a permis déjà de commencer à intervenir sur le cadre, mais aussi boucle à induction, boucle magnétique, d'intervenir bâtiment après bâtiment.
Ça veut dire que ce travail-là, cet énorme travail, il s'est fait tout de suite aussi en lien avec des associations de handicap, c'est-à-dire du coup pour se rendre compte, tiens, ce lieu-là il sonne peut-être pas comme il faut, et donc pour quelqu'un qui a des difficultés auditives, ça lui rend... ou l'inverse, malvoyant, ce lieu est problématique. Comment ça s'est passé peut-être? Il y a eu cette articulation aussi.
Il y a eu cette articulation dès le départ. Il faut dire qu'ici à Genève, il y a une association qui s'appelle HAU, Handicap, Architecture et Urbanisme, qui a travaillé aux côtés d'architectes de la ville de Genève pour faire déjà cet inventaire. Donc eux ont surtout travaillé sur le cadre bâti. Il y a eu des contacts avec la Fédération Suisse des Aveugles, la Fédération Suisse des Sourds, donc les différents organismes du handicap, pour vraiment faire cet inventaire. Et en parallèle, sans forcément qu'il y ait concertation, il y a eu une espèce de prise de conscience de la base, de justement ces services de médiation culturelle, et c'est les musées et les bibliothèques qui, en même temps, avec des moyens très différents et suivant des cheminements très différents, ont tout à coup eu cette prise de conscience et puis surtout cette volonté de trouver des moyens pour justement commencer à s'adresser de façon un peu plus large au public, on va dire, non usagé de la culture, dont les publics en situation de handicap qui par force étaient des non usagés parce que déjà d'une part il n'y avait pas d'offres et d'autre part il y avait des entraves multiples
pour pouvoir permettre cette accessibilité, ne serait-ce que déjà au cadre bâti, puis bien sûr après au contenu.
Le cadre bâti, le contenu, mais également toute la communication non adaptée. Parce que un carton d'invitation standard, très joli, plein de couleurs, avec une jolie image en arrière-fond, avec du texte inscrit sur l'image, eh bien, ça pose toutes sortes de problèmes de lecture. Aussi bien d'ailleurs à l'œil humain qui a une difficulté qu'à l'appareil, l'appareillage qui aujourd'hui permet de lire, mais pas tout et n'importe quoi. Donc il y a tout ce travail, cette prise de conscience aussi de communiquer autrement, qui est un long et patient travail, on n'en est qu'au début. Le cadre bâti, la programmation. Mais la programmation ne va pas sans la formation des personnels d'accueil. Parce que à quoi ça sert de faire un travail pour offrir une programmation en langue des signes si, quand la personne à l'accueil est confrontée à quelqu'un qui arrive et qui demande où est le, je ne sais pas, où est le porte-manteau, où est la visite, si la personne... Donc il y a cet énorme travail d'encadrement, d'apprentissage, de sensibilisation des milieux culturels aux questions du handicap et aux spécificités, aux particularités du handicap, mais également les milieux du handicap aux spécificités et aux particularités des lieux culturels.
Voilà, ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens.
À s'apprendre l'un l'autre pour essayer effectivement d'avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, un meilleur rapport de l'un à l'autre, justement, en tout cas.
Il y a des choses qu'on peut faire dans un espace musée ou dans un espace théâtre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne pourra jamais faire, quelles que soient les attentes du public. Qui est... Alors, comment on a travaillé avec le public? On a mis en place des groupes dits d'experts qui sont le plus mixtes possible, qui comprennent des gens en situation de handicap, mais aussi des professionnels du handicap, ergothérapeutes, etc. Mais qui peuvent aussi... on peut aussi avoir affaire à des gens issus du milieu médical, psychologues, psychiatres, médecins en tout genre. Donc, ces groupes d'experts sont à géométrie variable suivant les types de handicap. Et à tous les niveaux, on essaye de les consulter pour rester au plus proche de cette attente et surtout de ce monde qu'on connaît peu, finalement, et qu'on apprend à connaître. Donc c'est un travail qui se fait vraiment au quotidien, d'apprentissage, de reconnaissance, qui est quelquefois douloureux. Par exemple, on a eu tout un moment assez pénible avec la communauté sourde, qui ne comprenait pas pourquoi certains metteurs en scène ou dans certaines scénographies, on ne pouvait pas mettre sur scène des traducteurs qui font de la traduction en langue des signes, et pourquoi il y avait des réticences de la part de chorégraphes, etc. Et au fond, pour faire rentrer dans toute la problématique de c'est quoi une scénographie, c'est quoi un metteur en scène qui a une idée et qui essaye de la défendre, et qu'à un moment donné, il faut accepter l'autre avec ses exigences. Dans les deux sens, on découvre des réticences. Et c'est un travail qui ne peut s'inscrire que dans la durée. Là, on est ici à Genève. On a réellement commencé le travail en 2009. Donc aujourd'hui, là, je parle uniquement du monde du handicap physique ou mental. Maintenant, on a 6 ans d'expérience et on se rend compte qu'on n'en est qu'au balbutiement.
C'est votre impression aussi, Isabelle Navgalouga, par rapport à comment on vient de nous dépeindre de sa place, de la ville, Jeanne Pont, mais cette mutation progressive, comment pour vous, vous l'avez vécue et installée même ici au fur et à mesure que l'expérience venant, la rencontre avec les problématiques, les spécificités, les demandes, les regards des uns et des autres?
Tout à fait, la rencontre, je pense que c'est vraiment le vrai mot le dans vrai cette mot, histoire. Ouais. Jeanne a cité effectivement tous les préalables requis si on veut pouvoir accueillir simplement des personnes en situation de handicap. Donc une fois que ces préalables d'accessibilité à des bâtiments, et etc., à la communication, comme le dit Jeanne très justement, ont pu, les premières barrières ont pu être passées, ensuite il y a vraiment tout le travail de relationnel. Et là, je dirais que c'est vraiment une rencontre, un échange, un dialogue et de confiance en fait qui s'instaure dans la durée. Pour accueillir des personnes en situation de handicap, il y a d'abord un immense respect qu'il faut avoir. Nous, on a la grande chance de travailler en fait avec une agente d'accueil qui est en chaise roulante, ce qui fait qu'au quotidien, on peut vraiment voir quelles sont les problématiques, on peut en discuter. Et ça nous, évidemment, facilite énormément la vie. C'est très précieux. Et puis, Jeanne a dit très justement la formation. Alors ça, c'est vraiment de nouveau un échange et une rencontre, parce que très vite, dans le handicap, on peut tomber dans l'exclusion.
Tout à fait.
Il faut vraiment que tous dans le musée, les personnels d'accueil, les médiateurs culturels aussi bien sûr, mais aussi la directrice, les conservateurs, etc., le personnel scientifique, doivent savoir et comprendre l'autre, savoir quelles vont être ses difficultés. Et avec ce dialogue et ces formations, si on veut bien, ici au musée Ariana, on a fait une expérience magnifique donc avec les malvoyants lors d'une exposition qui était tactile et qui nous a permis justement de faire participer, alors non seulement des médiateurs malvoyants, nous-mêmes, mais notre personnel d'accueil, mais aussi les bénévoles du musée et ensuite les publics, où il y avait un véritable échange et où chacun pouvait découvrir comment le malvoyant est en situation, justement parce qu'il ne peut pas voir des œuvres. Et dans un musée, c'est ce qu'on fait surtout, on donne à voir.
À voir, oui.
Et comment nous, qui n'avons pas ce handicap, sommes en difficulté si, par exemple, on nous bande les yeux et qu'on doit tout à coup s'imaginer ce qu'on est en train de toucher.
Donc, vous sentez qu'il y a une évolution aujourd'hui, enfin avec de Jeanne Pont évoquée depuis 2009 par exemple, vous sentez qu'aujourd'hui au niveau de l'équipe purement du musée, aujourd'hui voilà, il y a des acquis, il y a les choses, toutes ces questions sont des questions qui déjà habitent un petit peu plus chacun dans ses préoccupations, dans sa fonction à l'intérieur du musée, pour rendre justement encore plus accessible, et puis continuer la dynamique que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sa dynamique artistique, enfin que tout ça commence à trouver, à circuler, ou c'est encore difficile ?
Non, absolument, ça circule très bien et chaque jour et à chaque expérience d'autant mieux, parce que les uns les autres s'enrichissent mutuellement. Et encore une fois, c'est cette dimension sociale qui est vraiment intéressante au-delà de notre métier, de la dimension bien sûr culturelle et artistique, c'est que les gens apprennent de manière beaucoup plus large à se connaître, à se comprendre et à vivre ensemble. Et ça, c'est certainement une dimension très importante que peut amener encore une fois un musée et la culture de manière générale.
Ça veut dire aussi que quand vous évoquez les médiateurs ou les médiatrices culturelles, tout le monde est polyvalent, ou est-ce qu'il y a des spécificités pour chacun des handicaps, ou petit à petit, au fur et à mesure des formations, petit à petit, quelqu'un qui avait déjà l'habitude d'accompagner des personnes malvoyantes a pu accompagner peut-être des personnes sourdes ou des personnes en situation de handicap mental. Comment ça s'organise peut-être à ce niveau-là?
Alors ici, on est un tout petit effectif.
Donc polyvalence.
Donc polyvalence obligatoire, mais spécificité aussi. C'est-à-dire que chacun n'a pas tout, ne développe pas tous les talents, et certains ont plus de dispositions effectivement pour être en relation avec des personnes sourdes et malentendantes, ou des personnes aveugles et malvoyantes, ou des personnes âgées qu'on côtoie tous les jours et qui sont certainement le premier public qui est en situation de difficulté, hein, que ce soit aussi qui peut réunir l'ensemble de ces handicaps également, et pour lesquels on se doit justement de leur offrir les meilleures activités ou les plus adaptées possibles.
Alors nous allons pouvoir découvrir, grâce à cette série de trois émissions que nous réalisons ici au Musée Ariana à Genève, justement un peu plus après, en profondeur, chacune de ces émissions. Et peut-être pour compléter, nous allons pouvoir découvrir maintenant une rubrique que nous avons régulièrement. Gérard Bonnefond est quelqu'un qui en France se penche aussi sur les pratiques artistiques dans les milieux de santé. Alors nous donne des contrepoints, mais nous fait reparcourir un peu l'histoire, quelque part, aussi de ce qui se passe sur le plan artistique au sein de cet établissement de santé et de soins.
Chronique traitera de l'aventure artistique conduite par Jean Revol, peintre et critique d'art, qui de 1975 à 1985 a parcouru la France des foyers et des ESAT, afin de faire découvrir la peinture et le dessin à des adultes handicapés mentaux. Observateur avisé de la vie dans les ESAT, il découvre que le système mis en place produit de la dépendance et les ouvriers travaillent dans un lieu où ils sont considérés trop souvent, du seul point de vue de leur handicap. Il écrit dans son ouvrage « Art de débile, débile de l'art », paru en 1987, « Les handicapés, pour une immense majorité, vivent sous le signe de l'interdit suspendu au-dessus de leur tête, comme l'épée de Damoclès, l'interdit majeur étant le sexuel. Il n'est personne aussi bas qu'il se situe sur l'échelle sociale qui n'ait pouvoir sur le handicapé. Il n'est pas question de vouloir diminuer les mérites du personnel travaillant en CAT. C'est le cadre même de ces établissements, le cadre conceptuel dans lequel ils enferment le phénomène psychique, qui paraît insupportablement étroit, et ceux qui y travaillent en sont le reflet. Le dépassement d'une telle situation devient possible grâce à l'introduction des arts plastiques, qui permettent de disposer d'un temps pour soi, d'un temps libéré de la contrainte productive et de la dépendance. Alors, à l'aide de la peinture acrylique, de feutre et aussi de pastel gras, ces ouvriers se sont lancés dans l'aventure de l'art. Lors d'un entretien le 19 février 2010, Jean Revol décrivait sa manière de travailler. Il y avait quelques règles dans l'atelier, comme respecter son dessin, et une simple feuille barbouillée ne devait pas être déchirée. Je leur disais qu'ils feraient mieux la prochaine fois. Et je ne leur ai jamais montré mon travail pour éviter tout risque d'imitation. Pendant les séances, je faisais leurs portraits, cela les amusait beaucoup. Ils m'interpellaient de la voix, Monsieur Jean, et de leurs mains, de leurs gestes, ils me sollicitaient. La relation personnelle était importante, ils peignaient pour moi, parce que j'étais là, bien présent dans l'atelier. Pendant les séances, on parlait beaucoup, pas forcément de peinture, de ce qu'ils aimaient faire dans la vie. On riait très souvent dans l'atelier. Ils existaient, ils se découvraient, et ils travaillaient en même temps. Certains peignaient ou dessinaient pendant des heures. Jamais je n'ai mis la main sur un dessin ou une peinture. Je ne les aidais pas. Mes interventions étaient assez rares. Par exemple, pour l'un d'entre eux, je proposais des pistes. La ville, le cirque. Ainsi, il se sentait déchargé de toute responsabilité en cas d'échec. Une enclave artistique est constituée, et la pratique régulière démontre que les ouvriers handicapés mentaux ne sont pas démunis sur le plan des arts plastiques. Chacun son style, sa vérité. Alors se dressent des fresques et des tableaux réalisés par des personnes dont on n'attendait rien ou si peu. La vie artistique entre par une porte dérobée avant de s'installer un peu plus, apportant des satisfactions et du plaisir. Jean Revol, le premier, a apporté les preuves artistiques que des ouvriers des ESAT pouvaient, comme tout autre, représenter leur univers personnel, leur environnement, leurs émotions, et certains avec talent. Il parle avec enthousiasme de ces peintres qu'il nommait les personnes-images. L'art que nous avons trouvé au CAT est au plus haut point abstrait et cérébral. Le style y est conquis au prix d'un travail opiniâtre. C'est l'effort de l'homme pour échapper au chaos, se créer un langage, le conquérir signe par signe, comme le peintre naïf conquiert son arbre feuille par feuille. Alors il propose le concept d'un